David Copperfield, livre 2, chapitre 7. Un peu d'eau froide jetée sur mon feu. Ma nouvelle vie durait depuis 8 jours déjà, et j'étais plus que jamais pénétrée de ces terribles absolutions pratiques que je regardais comme impérieusement exigées par la circonstance. Je continuais à marcher extrêmement vite, dans une vague idée que je faisais mon chemin. Je m'appliquais à dépenser ma force tant que je pouvais, dans l'ardeur avec laquelle j'accomplissais tout ce que j'entreprenais. J'étais enfin une véritable victime de moi-même. J'en vins jusqu'à me demander si je ne ferais pas bien de me borner à manger des légumes, dans l'idée vague qu'en devenant un animal herbivore, ce serait un sacrifice que j'offrirais sur l'autel de Dora. Jusqu'alors, ma petite Dora ignorait absolument mes efforts désespérés et ne savait que ce que mes lettres avaient pu confusément lui laisser entrevoir. Mais le samedi arriva, et c'est ce soir-là qu'elle devait rendre visite à Miss Mills, chez laquelle je devais moi-même aller prendre le thé, quand M. Mills se serait rendu à son cercle pour jouer au whist, événement dont je devais être averti par l'apparition d'une cage d'oiseaux à la fenêtre du milieu du salon. Nous étions alors complètement établis à Buckingham Street et M. Dick continuait ses copies avec une joie sans égale. Ma tante avait remporté une victoire signalée sur Mistress Croup en la soldant, en jetant par la fenêtre la première cruche qu'elle avait trouvée en embuscade sur l'escalier et en protégeant de sa personne l'arrivée et le départ d'une femme de ménage qu'elle avait prise au dehors. Ces mesures de vigueur avaient fait une telle impression sur Mistress Croup qu'elle s'était retirée dans sa cuisine, convaincue que ma tante était atteinte de la rage. Ma tante, à qui l'opinion de Mistress Croup, comme celle du monde entier, était parfaitement indifférente, n'était pas fâchée, d'ailleurs, d'encourager cette idée, et Mistress Croup, naguère si hardie, perdit bientôt si visiblement tout courage que, pour éviter de rencontrer ma tante sur l'escalier, elle tâchait d'éclipser sa volumineuse personne derrière les portes ou de se cacher dans des coins obscurs, laissant toutefois paraître, sans s'en douter, un ou deux laits de jupons de flanelle. Ma tante trouvait une telle satisfaction à l'effrayer que je crois qu'elle s'amusait à monter et à descendre tout exprès, son chapeau posé effrontément sur le sommet de sa tête, toutes les fois qu'elle pouvait espérer de trouver Mistress Croup sur son chemin. Ma tante, avec ses habitudes d'ordre et son esprit inventif, introduisit tant d'améliorations dans nos arrangements intérieurs qu'on aurait dit que nous avions fait un héritage au lieu d'avoir perdu notre argent. Entre autres choses, elle convertit l'office en un cabinet de toilette à mon usage et m'acheta un bois de lit qui faisait l'effet d'une bibliothèque dans le jour, autant qu'un bois de lit peut ressembler à une bibliothèque. J'étais l'objet de toute sa sollicitude, et ma pauvre mère elle-même n'eût pu m'aimer davantage, ni se donner plus de peine pour me rendre heureux. Peggotty avait regardé comme une haute faveur le privilège de se faire accepter pour participer à tous ses travaux, et quoiqu'elle conservât à l'égard de ma tante un peu de son ancienne terreur, elle avait reçu d'elle dans les derniers temps de si grandes preuves de confiance et d'estime qu'elles étaient les meilleures amies du monde. Mais le temps était venu pour Peggotty, je parle du samedi où je devais prendre le thé chez Miss Mills, de retourner chez elle pour aller remplir auprès de Ham les devoirs de sa mission. « Ainsi donc, adieu, Barkis !» dit ma tante. « Soignez-vous bien. Je n'aurais jamais cru que je dusse éprouver tant de regrets à vous voir partir. » Je conduisis Peggotty au bureau de la diligence et je la mis en voiture. Elle pleura en partant et confia son frère à mon amitié comme Ham l'avait déjà fait. Nous n'avions pas entendu parler de lui depuis qu'il était parti par cette belle soirée. « Et maintenant, mon cher David, dit Peggotty, si pendant votre stage vous aviez besoin d'argent pour vos dépenses ou si votre temps expirait, mon cher enfant, il vous fallait quelque chose pour vous établir dans l'un ou l'autre cas, ou dans l'un et l'autre, qui est-ce qui aurait autant de droit à vous le prêter que la pauvre vieille bonne de ma pauvre chérie. Je n'étais pas possédée d'une passion d'indépendance tellement sauvage que je ne voulusse pas au moins reconnaître ses offres généreuses, en l'assurant que si j'empruntais jamais de l'argent à personne, ce serait à elle que je voudrais m'adresser. Et je crois qu'à moins de lui faire à l'instant même l'emprunt d'une grosse somme, je ne pouvais pas lui faire plus de plaisir qu'en lui donnant cette assurance. Et puis, mon cher, dit Peggotty tout bas, dites à votre joli petit ange que j'aurais bien voulu la voir, ne fût-ce qu'une minute. Dites-lui aussi qu'avant son mariage avec mon garçon, je viendrai vous arranger votre maison comme il faut, si vous le permettez. Je lui promis que personne autre n'y toucherait qu'elle, et elle en fut si charmée qu'elle était, en partant, à la joie de son cœur. Je me fatiguai le plus possible ce jour-là à la cour, par une multitude de moyens, pour trouver le temps moins long, et le soir, à l'heure dite, je me rendis dans la rue qu'habitait M. Mills. C'était un homme terrible pour s'endormir toujours après son dîner. Il n'était pas encore sorti, et la cage n'était pas à la fenêtre. Il me fit attendre si longtemps que je me mis à souhaiter, par forme de consolation, que les joueurs de whist qui faisaient sa partie le missent à l'amende pour lui apprendre à venir si tard. Enfin il sortit, et je vis ma petite Dora suspendre elle-même la cage et faire un pas sur le balcon pour voir si j'étais là. Puis, quand elle m'aperçut, elle rentra en courant pendant que Jip restait dehors pour aboyer de toutes ses forces contre un énorme chien de boucher qui était dans la rue et qui l'aurait avalé comme une pilule. Dora vint à la porte du salon pour me recevoir. Jip arriva aussi en se roulant et en grognant dans l'idée que j'étais un brigand, et nous entrâmes tous les trois dans la chambre d'un air très tendre et très heureux. Mais je jetai bientôt le désespoir au milieu de notre joie. Hélas, c'était sans le vouloir, mais j'étais si plein de mon sujet. En demandant à Dora, sans la moindre préface, si elle pourrait se décider à aimer un mendiant. Ma chère petite Dora, jugez de son épouvante. La seule idée que ce mot éveilla dans son esprit, c'était celle d'un visage ridé, surmonté d'un bonnet de coton, avec accompagnement de béquilles, d'une jambe de bois ou d'un chien tenant une sébile dans la gueule. Aussi me regarda-t-elle tout effarée avec un air d'étonnement le plus drôle du monde. « Comment pouvez-vous me faire cette folle question ? » dit-elle en faisant la moue. « Aimer un mendiant ! » « Dora, ma bien-aimée, lui dis-je, je suis un mendiant. » « Comment pouvez-vous être assez fou ? » me répliqua-t-elle en me donnant une tape sur la main. « Pour venir nous faire de pareils comptes, je vais vous faire mordre par Jip. » Ses manières enfantines me plaisaient plus que tout au monde, mais il fallait absolument m'expliquer et je répétais d'un ton solennel « Dora, ma vie, mon amour, votre David est ruiné. » « Je vous assure que je vais vous faire mordre par Jip si vous continuez vos folies !» reprit Dora en secouant ses boucles de cheveux. Mais j'avais l'air si grave que Dora cessa de secouer ses boucles, posa sa petite main tremblante sur mon épaule, me regarda d'abord d'un air de trouble et d'épouvante, puis se mit à pleurer. C'était terrible. Je tombai à genoux à côté du canapé, la caressant et la conjurant de ne pas me déchirer le cœur. Mais pendant un moment, ma pauvre petite Dora ne savait que répéter. « Oh mon Dieu, j'ai peur. Où est Julia Mills? Menez-moi Julia Mills et allez-vous-en, je vous en prie. » Je ne savais pas plus moi-même où j'en étais. Enfin, à force de prières et de protestations, je décidai Dora à me regarder. Elle avait l'air terrifiée, mais je la ramenai peu à peu par mes caresses à me regarder tendrement, et elle appuya sa bonne petite joue contre la mienne. Alors je lui dis, en la tenant dans mes bras, que je l'aimais de tout mon cœur, mais que je me croyais obligée en conscience de lui offrir de rompre notre engagement puisque j'étais devenue pauvre, que je ne pourrais jamais m'en consoler ni supporter l'idée de la perdre, que je ne craignais pas la pauvreté si elle ne la craignait pas non plus, que mon cœur et mes bras puiseraient de la force dans mon amour pour elle, que je travaillais déjà avec un courage que les amants seuls peuvent connaître, que j'avais commencé à entrer dans la vie pratique et à songer à l'avenir, qu'une croûte de pain gagnée à la sueur de notre front était plus doux au cœur qu'un festin dû à un héritage. Et beaucoup d'autres belles choses comme celle-là, débitées avec une éloquence passionnée qui m'étonna moi-même, quoique je me fusse préparée à ce moment-là, nuit et jour, depuis l'instant où ma tante m'avait surpris par son arrivée imprévue. Votre cœur est-il toujours à moi, Dora, ma chère ? Lui dis-je avec transport, car je savais qu'il m'appartenait toujours en la sentant se presser contre moi. Oh oui ! S'écria Dora. Tout à vous ! Mais ne soyez pas si effrayant. Moi, effrayant, pauvre Dora. Ne me parlez pas de devenir pauvre et de travailler comme un nègre, me dit-elle en se serrant contre moi. Je vous en prie, je vous en prie. Mon amour, dis-je, une croûte de pain gagnée à la sueur. Oui, oui, mais je ne veux plus entendre parler de croûte de pain. Et il faut à Jip tous les jours sa côtelette de mouton à midi, sans quoi il mourra. J'étais sous le charme séduisant de ses manières enfantines. Je lui expliquais tendrement que Jip aurait sa côtelette de mouton avec toute la régularité accoutumée. Je lui dépeignis notre vie modeste, indépendante, grâce à mon travail. Je lui parlais de la petite maison que j'avais vue à Highgate, avec la chambre au premier pour ma tante. « Suis-je encore bien effrayant, Dora ?» lui dis-je avec tendresse. « Oh non, non !» s'écria Dora. « Mais j'espère que votre tante restera souvent dans sa chambre, et puis aussi que ce n'est pas une vieille grognon. » S'il m'eût été possible d'aimer Dora davantage, à coup sûr je l'eusse fait alors. Mais pourtant, je sentais qu'elle n'était pas bonne à grand-chose dans le cas présent. Ma nouvelle ardeur se refroidissait en voyant qu'il était si difficile de la lui communiquer. Je fis un nouvel effort. Quand elle fut tout à fait remise et qu'elle eut pris Jip sur ses genoux pour rouler ses oreilles autour de ses doigts, je repris ma gravité. « Ma bien-aimée, puis-je vous dire un mot ?»« Oh, je vous en prie, ne parlons pas de la vie pratique, » me dit-elle d'un ton caressant. « Si vous saviez comme cela me fait peur !»« Mais ma chérie, il n'y a pas de quoi vous effrayer dans tout ceci. Je voudrais vous faire envisager la chose autrement. Je voudrais, au contraire, que cela vous inspirât du nerf et du courage. »« Oh, mais c'est précisément ce qui me fait peur !» cria Dora. « Non, ma chérie, avec de la persévérance et de la force de caractère, on supporte des choses bien plus pénibles. « Mais je n'ai pas de force du tout !» dit Dora en secouant ses boucles. « N'est-ce pas, Jip ? Oh, voyons, embrassez Jip et soyez aimable !» Il était impossible de refuser d'embrasser Jip quand elle me le tendait exprès, en arrondissant elle-même, pour l'embrasser aussi, sa jolie petite bouche rose, tout en dirigeant l'opération qui devait s'accomplir avec une précision mathématique sur le milieu du nez de son bichon. Je fis exactement ce qu'elle voulait, puis je réclamai la récompense de mon obéissance, et Dora réussit pendant assez longtemps à tenir ma gravité en échec. « Mais Dora, ma chérie, lui dis-je en reprenant mon air solennel, j'ai encore quelque chose à vous dire. » Le juge de la cour des prérogatives lui-même en serait tombé amoureux rien que de la voir joindre ses petites mains qu'elle tendait vers moi en me suppliant de ne plus lui faire peur. « Mais je ne veux pas vous faire peur, mon amour, » répétais-je. « Seulement, Dora, ma bien-aimée, si vous vouliez quelquefois penser sans découragement, bien loin de là, mais si vous vouliez quelquefois penser pour vous encourager, au contraire, que vous êtes fiancée à un homme pauvre. « Non, non, je vous en prie !» cria Dora. « C'est trop effrayant !»« Mais pas du tout, ma chère petite, » lui dis-je gaiement. « Si vous vouliez seulement y penser quelquefois et vous occuper de temps en temps des affaires du ménage de votre papa pour tâcher de prendre quelque habitude, des comptes, par exemple. » Ma pauvre Dora accueillit cette idée par un petit cri qui ressemblait à un sanglot. « Cela vous serait bien utile un jour, » continuai-je. « Et si vous vouliez me promettre de lire un petit livre de cuisine que je vous enverrais, comme ce serait excellent pour vous et pour moi, car notre chemin dans la vie est rude et raboteux pour le moment, ma Dora, » lui dis-je en m'échauffant. « Et c'est à nous à la planir. Nous avons à lutter pour arriver. Il nous faut du courage. Nous avons bien des obstacles à affronter. » Et il faut les affronter sans crainte, les écraser sous nos pieds. J'allais toujours le poing fermé et l'air résolu, mais il était bien inutile d'aller plus loin. J'en avais dit bien assez. J'avais réussi à lui faire peur une fois de plus. Oh, où était Julia Mills?
Oh, menez-moi à Julia Mills et allez-vous-en, s'il vous plaît.
En un mot, j'étais à moitié fou. Et je parcourais le salon dans tous les sens. Je croyais l'avoir tuée cette fois. Je lui jetais de l'eau à la figure. Je tombais à genoux. Je m'arrachais les cheveux. Je m'accusais d'être une bête brute, sans remords et sans pitié. Je lui demandais pardon. Je la suppliais d'ouvrir les yeux. Je ravageais la boîte à ouvrage de Miss Mills pour y trouver un flacon. Et dans mon désespoir, je pris un étui d'ivoire à la place et je versais toutes les aiguilles sur Dora. Je montrais le poing à Jip, qui était aussi éperdu que moi. Je me livrais à toutes les extravagances imaginables, et il y avait longtemps que j'avais perdu la tête quand Miss Mills entra dans la chambre.
« Qu'y a-t-il? Que vous a-t-on fait ?» s'écria Miss Mills en venant au secours de son amie.
Je répondis « C'est moi, Miss Mills, c'est moi qui suis le coupable. »
« Oui, vous voyez le criminel !»
Et un tas de choses dans le même genre. Puis détournant ma tête pour la dérober à la lumière, je la cachai contre le coussin du canapé.
Miss Mills crut d'abord que c'était une querelle et que nous avions égaré dans le désert du Sahara. Mais elle ne fut pas longtemps dans cette incertitude, car ma chère petite Dora s'écria en l'embrassant que j'étais un pauvre manœuvre. Puis elle se mit à pleurer pour mon compte en me demandant si je voulais lui permettre de me donner tout son argent à garder, et finit par se jeter dans les bras de Miss Mills en sanglotant, comme si son pauvre petit cœur allait se briser. Heureusement, Miss Mills semblait née pour être notre bénédiction. Elle s'assura par quelques mots de la situation, consola Dora, lui persuada peu à peu que je n'étais pas à manœuvre. D'après ma manière de raconter les choses, je crois que Dora avait supposé que j'étais devenu terrassier et que je passais et repassais toute la journée sur une planche avec une brouette. Miss Mills, mieux informée, finit par établir la paix entre nous. Quand tout fut rentré dans l'ordre, Dora monta pour baigner ses yeux dans de l'eau de rose et Miss Mills demanda le thé. Dans l'intervalle, je déclarai à cette demoiselle qu'elle serait toujours mon amie et que mon cœur cesserait de battre avant d'oublier sa sympathie. Je lui développai alors le plan que j'avais essayé, avec si peu de succès, de faire comprendre à Dora. Miss Mills me répliqua, d'après des principes généraux, que la chaumière du contentement valait mieux que le palais de la froide splendeur et que l'amour suffisait à tout. Je dis à Miss Mills que c'était bien vrai et que personne ne pouvait le savoir mieux que moi, qui aimait Dora comme jamais mortel n'avait aimé avant moi. Mais sur la mélancolique observation de Miss Mills, qu'il serait heureux pour certains cœurs qu'ils n'eussent pas aimé autant que moi, je lui demandai par amendement la permission de restreindre ma remarque au sexe masculin seulement. Je posai ensuite à Miss Mills la question de savoir s'il n'y avait pas en effet quelque avantage pratique dans la proposition que j'avais voulu faire touchant les comptes, la tenue du ménage et les livres de cuisine. Après un moment de réflexion, voici ce que Miss Mills me répondit. « Monsieur Copperfield, je veux être franche avec vous. Les souffrances et les épreuves morales suppléent aux années chez de certaines natures, et je vais vous parler aussi franchement que si nous étions à confesse. Non, votre proposition ne convient pas à notre Dora. Notre chère Dora est l'enfant gâté de la nature. C'est une créature de lumière, de gaieté et de joie. Je ne puis pas vous dissimuler que, si cela se pouvait, ce serait très bien, sans doute, mais... » Et Miss Mills secoua la tête. Cette demi-concession de Miss Mills m'encouragea à lui demander si, dans le cas où il se présenterait, une occasion d'attirer l'attention de Dora sur les conditions de ce genre nécessaires à la vie pratique, elle serait assez bonne pour en profiter. Miss Mills s'y consentit si volontiers que je lui demandai encore si elle ne voudrait pas bien se charger du livre de cuisine et me rendre le service éminent de le faire accepter à Dora sans lui causer trop d'effroi. Miss Mills voulut bien se charger de la commission, mais on voyait bien qu'elle n'en attendait pas grand-chose. Dora reparut, et elle était si séduisante que je me demandais si véritablement il était permis de l'occuper de détails si vulgaires. Et puis elle m'aimait tant, elle était si séduisante, surtout quand elle faisait tenir Jip debout pour demander sa rôtie et qu'elle faisait semblant de lui brûler le nez avec la théière parce qu'il refusait de lui obéir. Je me regardais comme un monstre qui serait venu épouvanter de sa vue subite la fée dans son bosquet, quand je songeais à l'effroi que je lui avais causé et aux pleurs que je lui avais fait répandre. Après le thé, Dora prit sa guitare et chanta ses vieilles chansons françaises sur l'impossibilité absolue de cesser de danser sous aucun prétexte, et je sentis plus que jamais que j'étais un monstre. Il n'y eut qu'un nuage sur notre joie. Un moment avant de me retirer, Miss Mills fit par hasard une allusion au lendemain matin, et j'eus le malheur de dire que j'étais obligée de travailler et que je me levais maintenant à 5 heures du matin. Je ne sais si Dora en conçut l'idée que j'étais veilleur dans quelque établissement particulier, mais cette nouvelle fit une grande impression sur son esprit et elle cessa de jouer du piano et de chanter. Elle y pensait encore quand je lui dis adieu et elle me dit de son petit air câlin, comme si elle parlait à sa poupée, à ce qu'il me semblait. « Voyons, méchant, ne vous levez pas à 5 heures, cela n'a pas de bon sens. » « J'ai à travailler, ma chérie. »« Eh bien, ne travaillez pas, » dit Dora. « Pourquoi faire ?» Il était impossible de dire autrement qu'en riant à ce joli petit visage étonné qu'il faut bien travailler pour vivre. « Oh, que c'est ridicule !» s'écria Dora. « Et comment vivrions-nous sans cela, Dora ?»«
Comment ? Ben, n'importe comment !» dit Dora.
Elle avait l'air convaincue qu'elle venait de trancher la question et elle me donna un baiser triomphant qui venait si naturellement de son cœur innocent que je n'aurais pas voulu pour tout l'or du monde discuter avec elle sa réponse. Car je l'aimais et je continuais de l'aimer de toute mon âme, de toute ma force. Mais tout en travaillant beaucoup, tout en battant le fer pendant qu'il était chaud, cela n'empêchait pas que quelquefois, le soir, quand je me trouvais en face de ma tante, je réfléchissais à l'effroi que j'avais causé à Dora ce jour-là et je me demandais comment je ferais pour percer au travers de la forêt des difficultés, une guitare à la main, et à force d'y rêver, il me semblait que mes cheveux en devenaient tout blancs.